La situation financière des Canadiens est gravement affectée par la COVID-19 et certains d'entre eux se demandent comment faire pour joindre les deux bouts. La fermeture des entreprises a entraîné beaucoup de baisses et même une perte totale de revenus. Et on ignore ce qui se passera pendant la réouverture. Beaucoup de gens se demandent donc ce qu'ils peuvent faire pour assurer le maintien de leur santé financière. Bonjour, ici Carole Cohen, chargée de compte à Aspiria. Voici la deuxième bilado de notre série. Aujourd'hui, nous parlerons des répercussions financières de la pandémie de la COVID-19. Mon invité, Liberio Pacci, directeur régional pour le Québec Sud et Est du réseau externe de la vente à RBC Assurance. Liberio est planificateur financier agréé et possède plus de 10 ans d'expérience au sein de l'industrie des services financiers, en particulier dans le domaine de placement de l'assurance et des régimes d'avantages aux sociaux collectifs. Merci de vous joindre à moi, Liberio.
Ça me fait plaisir, Carole.
Liberio, en ce moment, tout le monde est stressé physiquement et émotionnellement pour les temps qui courent, mais la COVID-19 a aussi un effet sur notre santé financière. Quel effet avez-vous remarqué sur le marché aujourd'hui?
Eh bien, lorsque la pandémie a frappé, nous avons observé un dégagement généralisé typique. Vu la longue période de gains précédente, certaines personnes s'y attendaient de toute façon. Le marché a atteint un creux et semble maintenant se redresser peu à peu.
Mais ce type d'engagement est déjà produit dans le passé. Qu'est-ce qui est unique cette fois-ci?
Eh bien, le marché est toujours un outil de placement avant-gardiste. Compte tenu de la COVID-19 et du risque de deuxième vague, surtout aux États-Unis, il est possible que le rendement ne suive pas la tendance en V normale. Il est important de noter que bien que personne n'ait de boule de cristal, il est raisonnable de croire que l'économie ne recommencera pas à tourner normalement avant la mise au point d'un vaccin. Je m'attends donc à ce que les marchés se rétablissent, mais qu'ils prennent du recul à court terme et qu'ils frôlent à nouveau le plancher. Nous n'assisterons à un redressement total des cours qu'à l'approche d'une création de vaccin. Rassurez-vous, la reprise aura lieu, mais la courbe pourrait être assez irrégulière d'ici là.
OK, je comprends bien. Étant donné la volatilité présentement, quels conseils donnerez-vous aux investisseurs?
Le mot d'ordre est patience. La pire chose qu'un investisseur puisse faire, c'est paniquer. Il ne faut jamais vendre ou se faire rembourser des placements lorsqu'ils sont évalués au plus bas. Les situations comme celle-ci qu'on vit présentement montrent vraiment l'importance d'avoir un plan financier et de faire affaire avec un conseiller. Rappelez-vous toujours que la valeur d'une action ou d'un fonds commun de placement est basée sur la valeur de la société. Si le dégagement n'est pas dû au rendement de la société, on peut s'attendre à ce que la valeur de la société remonte. C'est sûr que durant une période comme celle-ci, les modèles de gestion changeront et certaines entreprises seront financièrement paralysées de la pandémie temporairement et d'autres de façon permanente. L'avantage des instruments financiers comme les fonds communs de placement, c'est qu'ils sont diversifiés, ce qui réduit le risque, bien évidemment. Le gestionnaire de fonds et son équipe sont aussi chargés de faire une recherche régulière sur les actions détenues dans la catégorie dont ils sont responsables pour pouvoir prendre des décisions opportunes quant à la réduction ou à l'augmentation des titres d'une entreprise en tout temps.
Très bien, je comprends. Alors, la pandémie a entraîné de nombreux licenciements à l'échelle nationale. Quels conseils avez-vous à donner à ceux qui ont été mis à pied à cause de la COVID?
L'élément essentiel de tout plan financier est le fonds d'urgence. Habituellement, ce fonds en liquidité gardé dans un compte d'épargne. Par exemple, devrait représenter environ 3 mois de dépenses ou 10 à 30 % de votre revenu annuel. On voit facilement l'avantage du fonds d'urgence maintenant, mais ce n'est pas toujours le cas quand les affaires vont bien. Si une personne n'est pas en mesure de payer toutes ses dépenses, il existe plusieurs programmes. Le gouvernement offre des programmes de soutien du revenu et je vous suggère de visiter le site web de l'ARC pour connaître tous les détails de la PCU ou du programme d'assurance-emploi. Okay. Des programmes pour les étudiants et la possibilité de reporter les paiements des impôts si vous devez de l'argent ont aussi été annoncés. Et ainsi que le retrait minimal du FER a été réduit de 25 % pour les personnes âgées. Si vous êtes toujours à court, il faut déterminer où obtenir de l'argent. Normalement, le CELI est la solution la plus logique puisque les retraits ne sont pas imposables et que les fonds peuvent être redéposés plus tard. Les REER sont imposables et le taux d'imposition des gains sur des placements sur le marché libre peut être élevé. Revoyez aussi vos attentes et gérez votre budget. Si vous aviez prévu de grosses dépenses, ben, je vous conseillerais d'attendre. La plupart des banques offrent le report de versement hypothécaire, donc vous pourriez profiter de cette option si nécessaire.
Très, très bien. C'est des bons conseils. Merci. Alors, si on a des économies et qu'on est en mesure de payer, devrait-on quand même profiter du report des versements hypothécaires?
Eh bien, si vous pouvez facilement vous acquitter de vos obligations, vous devriez effectuer vos paiements. Même si les banques reportent les versements, ils ne reportent pas les paiements des intérêts. Alors, si vous êtes en mesure de les payer, ben, faites-le. Certaines institutions financières baissent aussi le taux sur leur carte de crédit, mais cette forme d'emprunt reste toujours parmi les pires parce que même réduit, le taux sur une carte de crédit tourne encore autour de 10 % ou plus. Si possible, essayez de toujours payer le solde de vos cartes de crédit au complet.
Très bien. Alors, donc, si on peut être une bonne idée d'appeler sa banque, à part le rapport des versements hypothécaires, est-ce que les banques offrent d'autres formes de soutien?
La réponse est oui. Les 6 banques principales du Canada offrent aussi des programmes d'assistance pour le remboursement des prêts et des cartes de crédit. Et dans le cadre du programme d'achat de prêts hypothécaires assurés du gouvernement fédéral, des blocs de prêts hypothécaires assurés totalisent 50 milliards de dollars seront achetés par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logements pour assurer un financement stable des banques et des prêteurs hypothécaires afin d'accroître leur capacité de prêt aux entreprises et aux consommateurs canadiens, ainsi que d'injecter des liquidités dans le marché hypothécaire. Si vous songez à emprunter, cherchez le produit qui exige le taux d'intérêt le plus faible et offre les modalités les plus souples. Par exemple, une marge de crédit et évitez des prêts sur le salaire qui coûte cher. Si votre revenu est déjà affecté et que vous devez emprunter, évaluez soigneusement les taux d'intérêt et réfléchissez bien à la façon dont vous remboursez. La crise de la COVID-19 ne durera pas éternellement. Le défi est d'arriver à s'en sortir sans se créer un trou noir financier.
Très bien, toujours des bons conseils, merci. Alors, la prochaine question, le gouvernement a-t-il mis en place d'autres initiatives pour aider à compenser le revenu perdu?
Absolument, des ajustements ont été faits. Par exemple, certains ignorent que peut-être que les personnes en quarantaine peuvent demander des prestations de maladie de l'assurance-emploi sans avoir à fournir de certificat médical ni à attendre 7 jours, contrairement à ce qui est exigé normalement. Les autres crédits prévus en mai comprennent un paiement supplémentaire unique du crédit pour la taxe sur les produits et services ou taxe de vente harmonisée, ce qui double le paiement à environ 400 $ pour les personnes célibataires et à 600 $ pour les couples dans le cas des familles à faible ou moyen revenu. L'allocation canadienne pour enfants accordée aux parents sera à plus de 300 $ par enfant pour l'année de calcul des prestations 2019 et 2020. Le plan prévoit aussi un moratoire de 6 mois pendant lequel aucun frais d'intérêt ne seront imposés sur le remboursement des prêts étudiants, ainsi qu'une réduction de 25 % des retraits minimaux des fonds enregistrés de revenus retraite, soit les FER, et des paiement de prestations variables dans le cadre d'un régime de pension agréé. Le but est de réduire l'impact de la volatilité des marchés sur l'épargne retraite des personnes âgées. Ceci étant dit, il est important de comprendre les critères d'admissibilité et les restrictions des programmes de soutien du gouvernement. Cela vous évitera des maux de tête lorsque vous aurez besoin d'un financement. En plus des mesures fédérales en vigueur, les Canadiens peuvent profiter du soutien de leur province et évidemment de leur municipalité. Ils n'ont qu'à consulter les sites web pour obtenir des renseignements sur le plan de réponse durant la pandémie de COVID-19.
OK, ben merci pour ça. Et ma prochaine question, a-t-il d'autres initiatives d'aide dont on peut profiter actuellement?
Eh bien, selon votre lieu de résidence, certains fournisseurs d'électricité offrent des programmes dont des taux de facturation inférieurs, le report de paiement et des modalités de paiement souples pour aider les résidents et les entreprises en difficulté. Par ailleurs, ils remettent à plus tard les coupures d'électricité chez les mauvais payeurs, ainsi que les interruptions planifiées non urgentes ou les éliminent complètement. Certains fournisseurs de télécommunications également ont supprimé les limites de données sur les forfaits Internet et de téléphonie cellulaire et renoncé aux frais d'intérêt urbain et d'itinérance internationale ainsi qu'à la suspension de services pour les abonnés qui ne peuvent pas payer les factures. Ils proposent aussi des modalités de paiement souple et débrouillent des chaînes gratuitement. Pour ce qui est des réservations de voyages, des lignes aériennes, des voyagistes et des hôtels offrent un crédit, le remboursement des frais de service et, dans certains cas, un remboursement complet. Enfin, il faut déterminer les dépenses que vous pourriez éliminer, par exemple des abonnements à un service numérique ou à des produits de détail, dont des dons mensuels, des cartes de crédit dont vous n'avez pas besoin ou que vous n'utilisez plus. Il est important de garder les idées claires et d'évaluer précisément votre situation financière par rapport à celle que vous aviez avant la pandémie et à ce que qu'est-ce qui pourrait passer plus tard. Après la santé et la famille, les finances seront la principale préoccupation de nombreux Canadiens et ce stress va augmenter avec le temps. Pour l'instant, restez calme, sachez que vous êtes où vous en êtes et préparez-vous aux diverses éventualités.
OK. Des très, très bons conseils. Alors, on se demande pourquoi est-ce que la déclaration du revenu est-il différente, donc il faut tenir compte maintenant?
Les contribuables avaient jusqu'au 1er juin 2020, plutôt jusqu'au 30 avril, pour produire leur déclaration de revenus. La date limite pour les travailleurs autonomes et leurs conjoints ou partenaires était le 15 juin. Vous n'aurez pas plus non plus à payer le solde dû avant le 1er septembre 2020 et aucune pénalité sera appliquée si les acomptes provisionnels pour l'exercice financier 2020 sont versés en retard. Le report des dates limites de paiement est avantageux pour ceux dont le revenu ou la situation financière sont incertains, mais on encourage les Canadiens à produire leur déclaration de revenus à temps si possible. Ceux qui attendent le crédit pour la TPS, TVH ou l'allocation canadienne pour enfants doivent aussi penser à produire leur déclaration et ça, c'était pour le 1er juin, pour que ces prestations soient correctement déterminées et versées pour l'année 2020-2021. Le report de déclaration retarde le remboursement et si vous devez de l'impôt, il est préférable de savoir combien le plus tôt possible puisque vous disposez d'un délai supplémentaire pour payer cette année.
Très bien. Alors, parlons maintenant du stress créé par la situation actuelle. Quelle est la meilleure façon de gérer l'anxiété associée au marché?
D'abord et avant tout, si vos placements ont été effectués dans le cadre d'un plan financier ou encore d'une répartition d'actifs ou d'un régime de retraite au travail associé à une date de retraite, des règlements sont en place pour assurer que vos placements correspondent à votre tolérance de risque personnelle. Si votre retraite est prévue dans 5 ans, le portefeuille sera probablement prudent ou équilibré. Habituellement, plus le portefeuille est prudent, plus la part d'actions volatiles est faible. Lors d'un repli marqué comme celui que nous connaissons actuellement, un fonds prudent peut et perdra normalement de la valeur, mais la baisse est souvent bien inférieure à 10 %. Les portefeuilles équilibrés accuseront une perte pouvant atteindre 10 %, peut-être même 20 %. Les portefeuilles de croissance dynamique enregistreront la baisse la plus forte. Les jeunes investisseurs qui ont un portefeuille dynamique profitent en fait souvent d'un repli parce qu'ils continuent d'accumuler des richesses et sont en mesure d'acheter durant un cycle baissé pour bénéficier de la reprise.
OK, alors est-ce que c'est un moment pour acheter?
La détermination du moment propice pour acheter est souvent problématique, mais des approches anticonformistes peuvent être efficaces. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'en général, si le marché a atteint un creux, c'est souvent parce que les gens ont liquidé leurs placements, ce qui réduit la demande et en fait baisser les prix. Dans un marché haussier, tout le monde achète et la demande accrue fait monter les prix. Il est toujours préférable d'acheter lorsque les cours sont bas et de vendre lorsqu'ils sont hauts. Tant que vous respectez votre tolérance au risque, c'est un bon moment pour acheter si vous disposez des fonds supplémentaires nécessaires.
OK, très bien. Alors, je vois beaucoup d'annonces qui font la promotion de fonds indiciels, négociables en bourse et de comptes de courtage à bas prix. Qu'en pensez-vous?
Bien, je crois que ce sont des excellentes options pour les investisseurs confiants et bien informés qui comprennent tous les risques associés et qui sont en mesure de gérer leur propre plan financier. Habituellement, aucun conseil ni aucun service de gestion de risque ne sont offerts avec ces produits. Un FINB enregistre une baisse similaire à la baisse subie par l'indice de référence. Donc, si la bourse TSX, par exemple, baisse de 35 %, bien, la baisse du FINB TSX sera aussi de 35 % plus les frais. Un gestionnaire de fonds commun de placement canadien sur le même marché a la capacité d'effectuer des retraits et de réinvestir lorsque les cours sont plus bas pour atténuer ses pertes. La plupart des FINB offrent très peu de conseils et les données historiques montrent que le rendement net après le paiement des frais obtenus par un investisseur qui reçoit des conseils est supérieur à celui des investisseurs qui n'ont pas été conseillés. Il faut donc avoir un plan et quelqu'un qui le surveille constamment. Gérer l'émotion associée à l'investissement et modifier continuellement le plan en fonction de la situation individuelle. Par exemple, vous êtes peut-être un investisseur dynamique de nature, mais vous devez être plus prudent à mesure que la date de retraite approche parce que la protection du capital devient plus importante que l'accumulation. Parfois, il faut quelqu'un pour vous le rappeler.
OK. Très bon conseil encore. Alors, on se demande à quoi je devrais m'attendre de mon conseiller financier à ce moment ici, maintenant.
Eh bien, c'est très simple. Il devrait répondre à vos questions et apaiser vos préoccupations. Si votre conseiller gère votre plan financier, la situation ne l'inquiétera pas. Vos placements seront détenus dans des fonds adéquats et reprendront de la valeur avec le temps. Si vous devez effectuer des retraits, votre conseiller peut-être veiller à ce que les incidences fiscales soient réduites au minimum.
OK. Alors, on se demande à quoi je devrais faire d'autre maintenant.
Eh bien, prenez simplement le temps de vous assurer que votre budget suffira pour les 3 à 6 prochains mois. Si vous repérez des risques, consultez un professionnel et renseignez-vous sur vos options. N'empruntez pas inutilement. La plupart des Canadiens sont déjà très entêtés et la modification des taux d'intérêt plus tard pourrait avoir des dures conséquences. Par exemple, il n'est pas logique de payer un taux d'intérêt élevé sur une carte de crédit si vous avez des placements et instruments à taux fixe de 2 % dans un CELI que vous pouvez utiliser. Essayez de prendre des décisions réfléchies malgré le stress. Faites vos recherches pour vous assurer de profiter au maximum des programmes offerts selon la situation. Vous en bénéficieriez à long terme, ça c'est sûr.
OK, c'est bien à savoir. Merci. Avez-vous quelque chose à ajouter, Liberio?
Bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Mieux vous vous occupez de votre situation individuelle, mieux vous vous en tirerez. Les plans financiers sont personnalisés en fonction des besoins individuels des clients parce que nous sommes tous uniques et que notre situation et nos priorités sont différentes. Prenez soin de vous maintenant, car c'est plus important que n'importe quoi d'autre. Et donc, ça serait mon conseil final.
Ce sont d'excellents raisonnements, Liberio. Personnellement, j'ai appris des choses importantes aujourd'hui et je suis certain que nos auditeurs aussi. Alors voilà, cela met fin à notre bilado d'aujourd'hui. Je tiens à remercier mon invité, Liberio Pacci, d'être joint à moi et de nous avoir fait part de ses précieuses connaissances et de ses conseils pour nous aider à gérer certaines des préoccupations financières auxquelles nous faisons tout face dans cette période d'incertitude. Nous vous sommes vraiment reconnaissants d'avoir pris le temps de nous faire profiter de votre savoir-faire, Liberio. Alors, un gros, gros merci.
Bien, merci à vous, Carole. Et si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par courriel donc à liberio.pacci@rbc.com. Et ça me fera un grand plaisir de répondre à toutes vos questions et préoccupations.
Très, très, très bien. Merci, les bergueurs. Alors, s'il vous plaît, ne manquez pas de consulter la boîte à outils d'Aspiria contre la COVID-19 sur notre site web pour récolter l'enregistrement du bilado et obtenir d'autres ressources de soutien pour vous, vos employés et leurs familles dans ces temps incertains. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.